Où en est le projet de parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier? On fait le point aujourd'hui avec Lucille Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du développement pour la société éolienne en mer, l'Île-Dieu et Noirmoutier.
C'est tout à fait ça. Ravie de retrouver l'antenne avec vous et sur Neptune FM et ainsi que tous les îlets.
Quelles sont les étapes avant les débuts des travaux de pose des 62 éoliennes?
Alors c'est un moment crucial là que nous venons de passer, puisque fin 2018 et début 2019 a vu l'attribution de l'ensemble des autorisations pour le projet de parc éolien en mer Dieu-Noirmoutier et le tracé de raccordement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous disposons de toutes les autorisations nécessaires à la préparation de la construction. Et c'est donc ce à quoi nous allons nous atteler dans les deux années qui viennent, c'est-à-dire finaliser les différentes études de design des pièces constitutives du parc, mais également continuer de lancer et conduire les appels d'offres de sous-traitance, et également pour la fabrication des composants. Donc tout ceci va nous emmener tout au long de l'année 2019, et puis même jusqu'à mi-2020, et nous envisageons les premiers, alors quand je dis nous, c'est RTE en termes de calendrier qui débutera les travaux probablement à partir de fin 2020, début 2021.
RTE c'est pour le raccordement?
RTE c'est pour le raccordement, tout à fait. Et côté éolienne en mer, Île-Dieu et Noirmoutier, nous devrions débuter les travaux en mer à partir de 2022 pour une mise en service progressive des éoliennes à partir de 2023.
2023, le parc sera finalisé?
Alors non, je dis que les premières éoliennes devraient tourner en 2023. En fait, la construction, elle s'échelonne sur 2 ans. Donc les premières éoliennes devraient tourner en 2024 et nous espérons que l'intégralité du parc éolien en mer soit opérationnelle pour fin 2024.
Fin 2024, les 62 éoliennes seront en service, c'est ce que vous nous dites, Lucille?
Alors tout ceci, je parle encore au conditionnel hein, parce que ceux qui suivent tous ces projets de parc éolien en mer savent bien que les délais sont parfois susceptibles d'évoluer, et pas que de notre fait. Si on suit l'actualité du projet du Banc de Guérande, on voit qu'il y a eu un décalage. Et aujourd'hui, voilà, on estime, nous, qu'il nous faut, entre le moment où on vient d'obtenir les autorisations et le moment où ces éoliennes commenceront à tourner, ce délai-là, dans l'hypothèse où le traitement des contentieux durerait plus que prévu, eh bien, il faudrait peut-être revoir ce calendrier, mais on vous tiendra bien entendu informé.
Quel impact de ces changements de calendrier pour vous?
Écoutez, on essaie depuis le début du projet de tenir compte, hein, d'intégrer le temps de traitement des contentieux dans notre calendrier global. Donc aujourd'hui, ça ne change globalement pas. Enfin, on a intégré ce décalage-là dans notre calendrier global, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'amène pas de perturbations majeures dans le projet. On poursuit sur la feuille de route telle qu'on l'avait imaginée en l'adaptant.
Que répondez-vous aux opposants du projet qui disent que ce projet n'est pas écologique, préjudiciable pour les écosystèmes et la pêche artisanale?
Ah, alors c'est un vaste sujet. Il nous faudrait plus d'une émission pour apporter tous les éléments de réponse nécessaires à cette question. Je vais peut-être commencer par le plus important, mais un des paramètres majeurs du projet et qui concerne aussi particulièrement l'île, qui est celui de la pêche. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de rappeler que la zone sur laquelle ce parc devra se construire, a été dessiné par les professionnels de la pêche, non seulement il est, mais validé aussi par l'ensemble des professionnels de la pêche concernés et qui travaillent sur cette zone. Hein. Donc je fais référence au port, enfin aux professionnels de Noirmoutier, de Saint-Gilles et des Sables. Et cette zone, elle a été choisie par ces mêmes professionnels parce que, non pas il y avait personne, mais c'était la zone qui était, un, la moins travaillée, et pour les professionnels qui y travaillaient, cela permettait, une fois le parc construit, on pouvait envisager le maintien des pratiques qui sont aujourd'hui pratiquées, qui occupent les professionnels de la pêche, parce qu'il s'agit d'arts dormants, et que les arts dormants sont aujourd'hui considérés, et par nous, et par les professionnels et par les services de l'État en charge de la sécurité maritime compatible avec la présence d'un parc éolien en mer. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec ce postulat qui est de dire le parc construit, il faut que la pêche qui est aujourd'hui pratiquée puisse être maintenue. Et c'est d'ailleurs le sens des décisions qui ont été prises lors de la grande commission nautique. Donc il y aura une période de travaux pendant laquelle voilà, il va falloir qu'on compose, mais une fois que le parc sera construit, l'objectif c'est vraiment que les pêcheurs puissent retourner y travailler.
Ce que vous nous dites, c'est que dans ce parc de 82 km², la pêche sera possible après, pendant la période d'exploitation.
Tout à fait. En fait, c'est exactement mon propos. Alors aujourd'hui, c'est in fine, c'est le préfet maritime qui prendra cette décision.
La décision est attendue pour quand ?
Alors, il y a une première grande commission nautique qui, aujourd'hui, en l'état des travaux conjointement menés par Éoliennes en mer, les professionnels de la pêche, les services de l'État, a permis de donner un premier arbitrage qui est favorable au maintien de la pêche aux arts dormants dans le parc. Et cette grande commission nautique se réunira de nouveau juste avant la mise en service du parc pour donner une décision définitive. Donc, puisqu'on parle d'une mise en service du parc à l'horizon 2000, enfin, une mise en service des premières éoliennes à l'horizon 2023, voilà, c'est dans ce calendrier-là qu'il faut se projeter.
Pendant la phase de construction, la pêche ne sera pas possible.
Alors, là encore, il faut apporter des nuances peut-être à ce propos. Aujourd'hui, nous avons aussi pris l'engagement, Éoliennes en mer, vis-à-vis de la communauté de la pêche professionnelle, de maintenir ouverte à la pêche professionnelle, hein, qui est aujourd'hui pratiquée sur cette zone, au minimum 30% de la zone du parc pendant les 2 années de travaux. Ça veut dire que nous avons commencé à travailler à un séquençage de cette zone du parc, des 83 km², un séquençage qui permettra aux professionnels de venir travailler dans une partie de la zone du parc éolien par roulement. Alors c'est un processus qui est long, qui est itératif. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de présenter cela pour la simple et bonne raison que nous devons d'abord regarder, nous avons indiqué ce paramètre-là dans nos cahiers des charges et les entreprises qui répondent, les différentes entreprises qui répondent sur le lot posent des pieux, posent des fondations, posent des câbles, posent des éoliennes, intègrent ce paramètre, nous font leurs propositions et nous devons ensuite agencer tout cela et nous ferons en fait des propositions aux instances représentatives de la pêche avant de décider quel scénario nous retenons. Mais tout ce processus-là, il a débuté fin 2018, et il va s'échelonner jusqu'à mi-2020. Ce n'est pas avant qu'on aura une visibilité sur ce séquençage. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous ouvrirons temporairement et partiellement la zone du parc pendant la phase de travaux.
Et pour les écosystèmes, quelle est votre réponse ?
Alors concernant les écosystèmes, écoutez, c'est un sujet qui est très très vaste que celui de l'environnement. L'ensemble de notre étude d'impact environnemental a été mise à la disposition non seulement des services de l'État, mais aussi du grand public pendant la phase d'enquête publique. Et comme vous avez probablement pu en prendre connaissance, aussi bien les services de l'État que la commission d'enquête ont statué à une prise en compte de l'environnement et un respect de l'environnement qui était satisfaisant. On a eu des décisions qui allaient en ce sens. Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation des impacts environnementaux pour certaines espèces ou certains milieux qui pourraient être impactés ont été jugées satisfaisants. Donc aujourd'hui, mon propos et ma réponse, elle est la suivante. C'est oui, pendant les travaux, il va y avoir des impacts, mais limités sur certaines espèces ou certains habitats. Et on voit qu'une fois que le parc est mis en service, non seulement la communauté, on va dire, la ressource halieutique revient sur site, donc les poissons reviendront dans leur milieu très rapidement, les mammifères marins aussi, et de même, la faune s'adapte à ce nouveau paramètre et vole soit contourne le parc, soit vole au-dessus. Et on voit que, par exemple pour les oiseaux, le nombre de catégories et d'espèces d'oiseaux qui volent à la hauteur des éoliennes est très très faible. La majorité des oiseaux qui fréquentent la zone du futur parc éolien volent au ras de l'eau, qui est en fait une zone qui ne sera pas atteinte par les pales. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces différents aspects sur l'écosystème, le respect de l'environnement et le respect de l'écosystème. Et plus largement, je crois que le retour d'expérience dont on dispose sur les parcs éoliens en mer qui ont été construits à l'étranger atteste du retour à la normale une fois que le parc est construit.
Retour à la normale après combien de temps ?
Alors ça dépend des espèces, mais globalement on parle de... Alors il y a une colonisation, par exemple une colonisation des fondations qui se fait quasiment immédiatement. Donc on a d'abord des algues qui viennent coloniser les structures métalliques que sont les fondations de jacquettes. Et à partir du moment où vous avez un début d'écosystème, des algues, eh bien vous avez des espèces, des petites espèces qui viennent aussi manger les algues, et toute la chaîne trophique se reconstitue avec ensuite les poissons, les crustacés qui profitent aussi des enrochements qui pourront être mis sur les tables pour venir coloniser ce milieu-là. On voit aussi qu'on est sur une structure de fond rocheux qui est déjà très appréciée de certaines espèces. Donc, on ne va pas dénaturer le site. Donc, on verra des espèces, les espèces présentes revenir sur place. C'est ce qui est attendu. Et puis, potentiellement, de nouvelles espèces venir coloniser la zone.
Ce type de projet, durant la phase d'exploitation 25 ans, les accidents sont-ils nombreux ?
L'accidentologie, alors ce sujet-là, là encore, fait l'objet d'études spécifiques réalisées par des bureaux d'études indépendants. Nous travaillons justement sur ce sujet des études de risque avec le bureau d'études London Offshore Consulting, mais aussi les services de l'État. Je n'ai pas les données là en tête sur l'accidentologie. J'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui, mais bien évidemment, tous ces retours d'expérience et tous ces chiffres ont été intégrés dans toutes les études que nous avons pu mener. Et d'ailleurs, les plans d'urgence maritime et les plans d'intervention maritime sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l'État en charge de la sécurité en mer intègrent toutes ces données-là.
Lucie...
Donc, on est en train d'élaborer toutes les mesures de sécurité nécessaires pour les biens et pour les personnes, aussi bien pour la société, enfin pour les gens qui viendront travailler pour nous sur ce parc éolien en mer, que pour ceux qui, extérieurs, comme les pêcheurs professionnels par exemple, seront amenés à traverser ou à travailler au sein du parc.
La base de maintenance est-elle toujours d'actualité sur l'Île-Dieu, ainsi que le nombre d'emplois, 125 entre l'Île-Dieu et Noirmoutier et 70 pour l'Île-Dieu ?
Alors, la localisation des bases de maintenance sont plus que jamais d'actualité. Vous savez que c'est un point vraiment d'ancrage très fort, une décision très forte que nous avons prise dès l'appel d'offres, dans notre volonté d'ancrer ce projet-là dans le territoire. Donc aujourd'hui, nous confirmons l'implantation des deux bases de maintenance, aussi bien sur l'Île-Dieu que sur Noirmoutier.
Et l'Herbaudière
aussi bien sur l'Île-Dieu que sur l'île de Noirmoutier, et à l'Herbaudière pour parler plus précisément sur Noirmoutier. On avance en fait sur ces différents sujets. Aujourd'hui, sur l'Île-Dieu, précisément, le site est connu, c'est le bâtiment de la criée, on sait quelle moitié de la criée sera occupée par l'activité de maintenance, et quel quai, c'est le quai de la Glacière. Les premiers plans ont commencé à être travaillés. Aujourd'hui, on est tout à fait dans le bon tempo, c'est-à-dire ni en avance ni en retard. Nous avons bien avancé avec la Chambre de commerce et d'industrie sur ces différents sujets. Nous sommes en train de discuter des futurs AOT que nous devrons demander, que nous devrons solliciter auprès des collectivités qui sont et propriétaires et gestionnaires de ces espaces.
Futur AOT, qu'est-ce qu'une AOT ?
Alors une AET, c'est une autorisation d'occupation temporaire, puisqu'en fait, nous serons, nous serons en fait locataires hein, de ces espaces-là, mmh. aussi bien sur Yeux que sur Noirmoutier, et ça se fait dans un cadre juridique qui est bien défini, qui existe déjà en fait. Par exemple, les mareyeurs qui aujourd'hui occupent la criée, les cases de la criée, ont une AOT, une autorisation d'occupation temporaire qui les lie en fait avec l'autorité concédante qui est la Chambre de commerce et d'industrie.
Et par rapport aux emplois ?
Alors par rapport aux emplois, comme je vous le disais, l'emploi local c'est vraiment une composante essentielle de l'ancrage de notre projet. Donc comme je vous le disais, on continue à affiner le nombre d'emplois qui seront implantés sur chacune des deux îles. Et aujourd'hui, la renégo tarifaire n'a pas donné lieu à une réduction du nombre d'emplois qui est prévu pour l'exploitation et la maintenance. En revanche, il nous a été demandé d'adapter nos ressources, aussi bien pour la construction que pour l'exploitation et la maintenance, conformément aux meilleures pratiques de la filière éolienne en mer. Alors en France, il n'y en a pas encore, mais à l'étranger. Donc ça veut dire que c'est une réflexion c'est un travail qu'on continue de mener sur la durée, au plus près des évolutions qui sont constatées dans le secteur. Mais je vous confirme que plusieurs dizaines d'emplois, alors vous dire si ce sera 80 ou 70, peut-être 60 aujourd'hui, c'est prématuré. Mais nous confirmons que plusieurs dizaines d'emplois seront bien localisés sur l'île Dieu pour assurer la maintenance des éoliennes de ce projet.
Qu'est-ce qui pourrait faire que le projet ne voit pas le jour ?
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que le projet ne voit pas le jour ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons les autorisations, comme je vous le disais au tout début de cet échange, nous avons les autorisations pour lancer la construction de ce parc. Bon, il se trouve que, comme tous les projets, les grands projets industriels en France, celui-ci a généré quelques réactions d'opposants qui, pour certains, ont déposé des recours. Et aujourd'hui, nous devons attendre que ces recours soient, que la justice fasse son travail et que ces recours soient purgés pour pouvoir lancer la construction de ce projet. Donc, il ne faut pas faire de triomphalisme en disant que, de toute façon, on le fera. Nous devons attendre et aller au bout de l'instruction de ces recours. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que nous ne fassions pas le projet ? Eh bien, je vous dis peut-être que les recours donnent raison à ceux qui les ont déposés. Ça pourrait être une des raisons. Et c'est la principale que j'entrevois aujourd'hui.
Mais pour l'instant, vous êtes plutôt confiante.
Écoutez, nous sommes confiants, mais nous restons prudents. Nous continuons à travailler dans le calendrier qui nous est qui est le nôtre et qui aujourd'hui intègre ces deux années de décalage dont je vous ai parlé, puisqu'initialement on envisageait une mise en service à partir de 2021. Aujourd'hui, le calendrier est décalé compte tenu de ces recours.
À 2023.
Une mise en service qui est en 2023, voilà, c'est ça. Mais je veux dire qu'on est confiant, mais nous restons prudents et il faut pas faire de triomphalisme prématuré. Mais nous travaillons pour être à l'heure une fois que les recours seront purgés.
Jusqu'au 2 juillet est ouverte une campagne de financement participatif. Quel est l'objectif de cette campagne ?
Alors, le premier objectif, je dirais qu'il est vraiment d'associer les Vendéens à ce projet, au projet de parc éolien en mer et plus spécifiquement à la prochaine campagne de recherche archéologique sous-marine que nous allons faire réaliser cet été sur la zone du projet. Il faut peut-être rappeler que c'est une démarche qui est volontaire d'éoliennes en mer d'associer au travers de cette campagne le plus large public possible à ce projet et cela vient répondre à une demande qui a été exprimée déjà il y a plusieurs années
en
dans
2017.
Le cadre du débat public. Pardon ?
En 2017 ?
Même avant, en fait, la demande, elle a vu le jour lors du débat public. Je pense que vous étiez déjà à Radio Neptune, à Neptune FM, lorsque nous sommes venus en 2015 tenir les différentes réunions du débat public sur Lyon, sur Noirmoutier, sur le continent. Et en fait, c'est à cette occasion-là que les premières questions, les premières sollicitations ont émergé. Et elles ont été, on va dire, pas extrêmement nombreuses, mais répétées est suffisamment répété pour qu'on prenne l'engagement à l'issue du débat public d'étudier la faisabilité de lancer une campagne de financement participatif. Donc c'est ce à quoi nous nous sommes employés en 2016. D'une part, regarder la faisabilité financière, technique. Nous avons aussi sollicité l'accord de nos actionnaires, ce qui a été le cas. Nous avons sélectionné en janvier 2017 la plateforme Enercip, puisque une entreprise privée ne peut lancer comme ça une campagne de financement participatif. Il faut s'adosser à un organisme qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, ce qui est le cas d'Enercip. Donc, janvier 2017, sélection d'Enercip. Nous avons ensuite réuni des acteurs du territoire vendéen à plusieurs reprises, à deux reprises précisément, dans le courant de l'année 2017, pour confirmer cette demande, cette appétence qu'on avait identifiée pendant le débat public, ce qui s'est confirmé lors du premier groupe de travail. Et le deuxième groupe de travail, qui s'est tenu, je crois, en juin, si ma mémoire est bonne, nous a permis de travailler un petit peu plus le produit, c'est-à-dire sur quoi faire porter cette campagne de financement participatif, pour quel montant, comment y faire en sorte que la population ait envie d'adhérer à ce projet. Au travers de, par exemple, de la communication qu'on en ferait, le phasage, par exemple, ouvrir d'abord cette campagne de financement participatif aux Vendéens. Nous nous sommes inspirés des retours que nous avons eus lors de ce deuxième groupe de travail 2017 pour commencer à réfléchir à un produit. Cette démarche-là a été à nouveau mise en suspens, on va dire, en 2018, puisque l'enquête publique le nécessitait. Et il se trouve que justement, cette enquête publique a de nouveau vu ressurgir ce sujet-là, cette demande-là, à telle enseigne que la commission d'enquête, dans son rapport, nous a aussi recommandé de lancer cette campagne. Donc là, on s'est dit, il faut y aller. Et une fois les autorisations obtenues, comme je vous le disais au début de notre échange, fin 2018 et début 2019 pour la partie raccordement, eh bien tous les signaux étaient ouverts pour que nous passions en phase opérationnelle. Et c'est ce que nous faisons ce printemps. Donc, pour quel objectif? Puisque c'était votre question initiale, c'est vraiment pour associer les Vendéens et les Ilais, nous le souhaitons, d'une part. D'autre part, pour répondre à une demande qui a été exprimée à plusieurs reprises. Et enfin, aussi pour permettre à tous ceux qui soutiennent notre projet et qu'on n'entend pas souvent, de manifester leur soutien et leur enthousiasme en faveur du projet au travers de cette campagne.
La campagne pour une recherche archéologique, 800 000 euros à collecter. Si l'objectif n'est pas atteint, cette recherche archéologique se fera tout de même ?
Oui, bien sûr. En fait, cette campagne de recherche archéologique, nous devons la réaliser. Nous disposons déjà des fonds, hein. J'aurais peut-être même dû commencer par cela. Éolienne en mer aujourd'hui dispose de l'intégralité des fonds nécessaires non seulement à la réalisation de cette campagne, mais aussi à la poursuite du développement du projet. Donc l'objectif, c'est pas, on fait pas un appel aux dons. Donc si jamais cette campagne de financement participatif ne rencontrait pas le succès que nous escomptons, eh bien les gens qui ont investi se verraient remboursés, bien évidemment, de la somme qu'ils ont placée, et nous mènerions, nous, sur nos fonds propres, cette campagne de recherche archéologique sous-marine.
Lucile Forget, merci beaucoup de toutes ces informations.
Avec plaisir.
On rappelle, vous êtes la directrice du développement pour la société éolienne en mer L'Île-Dieu et Noirmoutier. À très bientôt.
À très bientôt, et nous comptons sur l'ensemble des Ilais et des Vendéens pour participer à cette campagne.
Ça sera le mot de la fin. Merci. À très bientôt, Lucile Forget.
Merci. À bientôt. Au revoir.